Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, Monsieur, bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Pleine Lucarne au lendemain d'un dimanche noir pour le Stade Rennais. Je voulais dire Bloody Sunday, mais pas loin quand même. Il n'y a rien qui est allé hier pour Rennes. Les autres résultats n'ont pas non plus arrangé le Stade Rennais qui maintenant n'a plus son destin entre ses pieds après ce match incroyable que nous avons vécu et cette défaite 4-5 face aux voisins brestois qui n'avaient jamais gagné à Rennes, en tout cas pas depuis les 37 dernières années. C'est-à-dire que la plupart des gens qui nous regardent n'étaient pas nés lorsque c'est arrivé. Autant dire que c'est vraiment une très très mauvaise opération dont nous allons parler pendant 45 minutes avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe.
Salut Vincent.
Avec Thomas Rassouli de Stade Rennais Online, comprenez, SRO. Salut Thomas.
Salut Vincent, merci.
Alors nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mélanie Duro.
Salut.
Alors,
Mélanie, Vincent.
Salut Mélanie, star de la télé.
Non.
Ah si, parce que
non.
On réexplique que vous participez à une opération de Canal+ qui s'appelle Au Micro.
Tout à fait.
10 000 candidats au début pour devenir commentateur sportif et intégrer la rédaction des sports de Canal+, et que vous faites partie, à l'heure où on se parle, des 12 dernières sélectionnées.
Vous avez tout compris. Très bien résumé.
Ouais, on peut. C'est fou.
Oui, c'est fou.
Et donc là, maintenant, bon, sans dévoiler trop ce qui va se passer, la prochaine épreuve, c'est quoi pour vous?
Donc déjà, ça sera diffusé mercredi à 23h15 sur Canal+, et ce sera un multiplex avec Éric Bénard, le Rennais.
D'accord. Bah, c'est pas mal d'avoir un gars de confiance comme ça.
J'étais très contente.
C'est une super expérience en attendant.
Oui, c'était très stressant, très intense. Et puis unique aussi, ouais. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment.
Ouais,
mais
vous êtes tenu.
Exactement, je vous en dirai plus
secret.
Au mois de juin.
D'accord, ok, au mois de juin on saura tout.
Oui, ça se termine le 31.
On croise les doigts pour vous, Mélanie. Et puis, quatrième autour de cette table, le patron de tous les sports du département, Laurent Frétinier.
Bonjour
Laurent, de ce département pour quelques semaines encore.
Et oui.
Parce que vous allez continuer à faire la Coupe d'Europe, quoi qu'il arrive.
Oui, je jouerai la Coupe d'Europe l'année prochaine encore, parce que je quitte le navire. Non, je suis nommé, muté à Brest. Et voilà, la saison prochaine. Voilà. C'est complètement indépendant des résultats sportifs, ce sont pour des raisons personnelles et familiales, mais je suis bien content de faire, je couvrirai ma 5e Coupe d'Europe d'affilée, et voilà, peut-être la Ligue des Champions. J'étais arrivé à Rennes pour la Ligue des Champions, j'avais peut-être arrivé à Brest pour la Ligue des Champions.
Et vous allez peut-être voir la Ligue des Champions à Rennes, si Brest.
Je viendrai faire Pleine Lucarne.
Oui, c'est
ami.
Ça. Nous, on ne sera pas au match, en tout cas. Ça, c'est, on peut déjà vous le dire. On va regarder le résumé du match d'hier. Un match
vous
de.
Pas le football.
Si, mais j'aime le Stade Rennais surtout. On va regarder le résumé. On va revoir. Le résumé, c'est 9 buts. Hein. On le regarde et c'est tout de suite. Allez, pas loin de 29 000 spectateurs, une bonne ambiance et l'ambiance, elle est encore meilleure dès la 4e minute, vous allez le voir. Bon travail de Matuziwa qui trouve Kalimuendo en profondeur. Kalimuendo qui vient tromper Bizotte. 4 minutes de jeu, Rennes se met dans le bon sens, 1-0. On revoit la bonne orientation de Matuziwa. À la limite du hors-jeu, Kalimuendo, ça fait 1-0. 9e minute. Désiré Doué, ballon un peu vicieux, Bizotte se déchire totalement. Et qui est là pour pousser le ballon au fond? C'est encore Kalimuendo, début de match canon des Rennais. Regardez l'erreur de main de Bizotte qui retombe carrément sur les pieds de Kalimuendo. Mais les Rennais ne vont en profiter que 2 minutes. On laisse centrer très facilement le maître artificier Del Castillo. Derrière, évidemment, on laisse de l'espace à Mounier. Et ça fait 2-1. Après 11 minutes seulement. On arrive en deuxième mi-temps, 48e, on laisse centrer. Et puis évidemment, Omari, qui a un problème de latéralité quand même, qui a un problème même de mobilité. Hein. Regardez, marque contre son camp. Ça fait 2-2. Ça va faire 3-2 parce que Loco centre parfaitement. On oublie qu'il n'y a pas que Mounier, mais il y a Satriano également. Mais non, c'est pas important de le marquer, celui-là. Donc, ça fait 2-3. Regardez comme il est seul. Mais c'est incroyable. 2-3. Et ça va bientôt faire 2-4 sur une touche. Hein. Alors, on relance plein axe. Derrière, personne pour se sacrifier. 4 tirs cadrés, 4 buts. Évidemment, aucun arrêt. Voilà. 2-4. Les Rennais vont revenir dans le match grâce d'abord à Théâtre qui était l'auteur de la faute juste auparavant et qui, de 25 mètres, comme il l'avait fait à l'Arnaca en Coupe d'Europe il y a de longs mois de cela, permet à Rennes de revenir à 2-3. Coup franc Bourigeaud, prolongé au premier poteau par Terrier. 4-4, ça devient totalement dingue ce match. Et là on se dit, Rennes peut peut-être aller accrocher quelque chose. Oui mais non. Parce que dernière minute, dernière seconde, un coup franc, on y reviendra sur cette action. On laisse Brassier tout seul. Regardez la passivité de toute la défense rennaise.
Ballon à mi-hauteur.
Ballon à mi-hauteur. Les Brestois seront sûrs de disputer la Coupe d'Europe. Et on regarde le classement. Et on va y revenir longtemps sur ce classement. Puisque Marseille a gagné, Lyon a gagné, Toulouse a gagné. Parce que attention, il faut compter aussi sur Toulouse. Il y a des choses qui ont changé par rapport à lundi dernier. C'est déjà que Rennes ne peut plus aller taper la 5e place. Voilà. Que la 6e, à 4 points, elle va être compliquée à aller chercher aussi. Même sans doute impossible. Et qu'il y a deux équipes devant Rennes pour la 7e place. Quel mauvais dimanche, Laurent.
C'est un sacré mauvais dimanche pour Rennes. En effet, un sacré match de football, il faut quand même le préciser. C'est un festin de football. Après, les entraîneurs n'étaient pas très contents avec leur défense. Ils ont de quoi, surtout même Éric Roy à Brest l'a précisé. Et Julien Seffan peut l'être encore plus désabusé par la passivité de sa défense. Mais oui, très très mauvaise opération. Julien Seffan reconnaît que désormais, ce sera la 7e place. Pour ça, il faudra que Paris gagne la Coupe de France, si pour que cette place soit qualificative. La seule bonne chose, c'est que Lens est perdu et que Rennes rencontre Lens. Il y a quand même encore possibilité.
Il y a 9 points.
Il y a 9 points. Ouais. Il y a un déplacement à Metz qui est sur une bonne dynamique, plutôt à la maison, chez eux, qu'il faudra. Enfin, c'est pas facile d'aller gagner là-bas quand même, vu l'état du stade rennais. La réception de Lens, que Rennes n'a pas battu depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Et en revanche, un déplacement à Reims qui n'a plus rien à jouer.
Non, mais même des équipes qui n'ont rien à jouer peuvent battre ce Rennes-là.
C'est sûr.
C'est la fin des illusions.
Oui.
Ouais.
Oui. C'est un sentiment personnel. Hein, donc, grand bien leur fasse s'ils arrivent à inverser la tendance. Mais. Moi, dans les discours d'hier, dans ce qu'on a vu, dans les attitudes des personnes qui sont venues se présenter, donc Julien Stéphan, Steve Mandanda et Benjamin Bourigeaud, c'est fini, quoi. C'est dans leur langage corporel, dans leur langage, dans ce qu'ils nous ont dit, il n'y a pas une lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'on a vu, un groupe se déliter, quoi. Un groupe s'effondrer complètement. Je pense qu'on l'a tous écrit, on l'a tous dit. Ils l'ont même dit eux-mêmes, c'est un match à l'image de cette saison. C'est-à-dire qu'il peut absolument tout se passer. Ils peuvent entretenir des illusions même sur 90 minutes et à la fin s'écrouler totalement. C'est invraisemblable de prendre 5 buts comme déjà prendre 5 buts à domicile, mais alors prendre 5 fois le même but, c'est-à-dire sur un long ballon à chaque fois, c'est complètement du délire et ça vous permet pas d'espérer par la suite qu'il y ait quelque chose qui se passe. Déjà au niveau comptable, c'est possible d'aller chercher la 7e place, mais je pense franchement que dans les attitudes et dans la constitution de ce groupe désormais, qui à mon avis s'est complètement délité hier et c'est la fin de quelque chose dans ce groupe-là depuis hier soir. J'y crois pas du tout.
Vous êtes d'accord, Amel, ça va être compliqué.
Complètement, mais et puis comment nous y croire si eux-mêmes n'y croient plus? C'est compliqué d'avoir de l'espoir pour un groupe qu'on a effectivement senti complètement lâché. Et les réactions d'après-match ne trompent pas sur les mots de Benjamin Bourigeaud qui sont très forts, mais on le sent tellement abattu. Je me suis aussi dit que ça pouvait éventuellement poser des problèmes entre les joueurs d'avoir des tels mots. Enfin,
mais Kalimuendo a quitté le stade très très vite.
Ouais. Ah bah ça, on était à peine descendu de la tribune de presse qui s'en allait, il était douché, partait très en colère, et il a préféré même éviter les spectateurs rennais qui dans le couloir et les journalistes et se faire siffler par le parquage brestois. Il en a été à ce point là.
Ça c'est devenu une tradition chez les joueurs qui évitent la zone mixte, hein. Ils sortent par le long du terrain, même quand il y a victoire, ça arrive.
Non, mais ils évitent leur responsabilité un peu.
Hier soir,
on a
senti quand même, hein, Christophe, que c'était peut-être pas la fin d'un cycle. Il reste 9 points à prendre, on va pas faire le bilan de la saison, maintenant. Non, mais quand même, ça sent pas bon.
Qui peut croire à 3 victoires? Parce que pour aller décrocher l'Europe, il va falloir 3 victoires à suivre. On se doute bien. Qui croit à 3 victoires du Stade Rennais pour finir cette saison? Non, elle est beaucoup trop imperfectible, cette équipe. Elle plonge tout de suite. Une stade qui résume la saison pour moi sur le match d'hier, c'est 5 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, à partir de là, vous ne pouvez pas aller décrocher l'Europe.
C'était pas arrivé depuis très très longtemps, depuis 2001 quand Djibril Cissé était venu marquer un quintuplé ici avec Auxerre. Ouais. Depuis 2001, un quadruplé. Il y avait eu ça, avait fait 5-1. Ouais.
Non, 5-0, mais quadruplé de Cissé.
C'était au mois de juillet.
Ah, peut-être.
C'est le premier match de la saison.
Je me rappelle.
Oui, c'est vrai. Ça fait près de 25 ans que c'est pas arrivé de prendre 5 buts à la maison. Autant dire l'état de cette défense dont on va énormément parler. La question que je vous pose, alors, peut-être que Rennes joue pour du beurre maintenant, mais est-ce que cette équipe mérite l'Europe? Est-ce que cette équipe, telle qu'on l'a vue toute la saison, mérite quelque chose?
Après, est-ce
non.
que...
Non, pour moi, non. Non, 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 non. Les équipes qui sont au-dessus de Rennes au classement sont soit meilleures, soit ont été plus régulières à l'image de Brest, qui pour moi mérite amplement de jouer l'Europe.
Ah oui.
Une saison sur 10 mois, c'est pas être fort pendant 3 mois, oui. Ce qu'a été le Stade Rennais. Le reste, c'était que de l'irrégularité. Donc, pour moi, non, elle ne mérite pas d'être en Europe.
Et alors, après, il n'y a pas de. Dans le football et le sport, la notion de mérite, elle n'existe pas. C'est le bilan comptable qui fait foi. Et c'est clair que le bilan comptable, il est trop irrégulier aussi. Donc, l'Europe, ce serait un miracle désormais. Mais bon, après, il y a toujours. Parfois des miracles avec Rennes.
Quand je parle d'irrégularité, on peut noter notamment Lyon, qui fait une première partie de saison catastrophique, ouais. Et qui est au rendez-vous. Comme quoi, clairement. Effectivement.
Oui, mais parce que Lyon.
C'est un peu. C'est troublant, en fait.
Oui, mais parce que Lyon a Lacazette, parce que Marseille a Aubameyang, parce qu'ils ont des joueurs qui portent l'équipe et Rennes ne les a pas.
Oui, c'est ouais, enfin, l'OM a aussi Balerdi derrière, plus que. Je trouve, finalement, vrai, c'est là, parce que les attaquants, on les a. Hier, on a prouvé qu'il y avait quand même des attaquants qui étaient quand même.
Oui,
ils marquent 4 buts, c'est ils reviennent. C'est vraiment dans la défense, et pas que la défense, dans le milieu et le bloc équipe, qu'il y a un gros, gros défaut dans cette équipe. Et sans doute, comme disait Thomas, psychologiquement, parce que moi, je crois que cette équipe, elle s'est délitée psychologiquement avant ce match-là. Ça fait plusieurs mois, enfin, plusieurs semaines qu'il y a un souci.
On va en parler, mais juste, je voudrais vous faire écouter Julien Stéphan. Il est un peu comme vous. Voilà, lui, il n'y a plus qu'un seul objectif, la 7e place, qui est donc... le bout du strapontin européen.
Écoute, pour la fin de saison, ça induit qu'il reste 3 matchs, 9 points en jeu, 9 points à prendre. Voilà, que certainement, meilleure place qu'on pourra obtenir, ça sera, je pense, la 7e place. Je pense que ça sera ça maintenant, aujourd'hui. Si Paris gagne la Coupe de France, et ben elle sera qualificative pour le championnat. On peut ne plus avoir la main non plus ce soir en fonction des autres résultats. Voilà, donc... Il faudra se reconcentrer sur nous, d'abord sur le déplacement à Metz, digérer ça en espérant que le groupe le digère le plus vite possible et puis se projeter dans la préparation du match de Metz. Un footballeur de haut niveau ne peut pas lâcher prise à ce moment-là de la saison. Dans notre position, il y a encore de l'enjeu, donc voilà, il ne faudra surtout pas lâcher, ça ne doit pas faire partie du caractère de ce groupe-là.
Alors ça c'est le mantra, c'est la méthode Coué, mais on voit bien que quand il dit « on espère que le groupe va digérer », ça va être sans doute compliqué. Alors, je veux pas qu'on fasse un bilan aujourd'hui de la saison, mais quand
on
même.
On va vous reprocher autrement.
Oui, on va. Bah parce que oui, c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça. Vous savez, là, ces temps-ci, quand ça va pas bien, c'est souvent aussi de la faute des journalistes qui aiment trop le club, qui sont pas assez critiques. Mais il y avait ça il y a 30 ans. Hein, tous les journalistes mettaient sur liste rouge quand ça allait pas parce que. Mais, donc l'imbécilité n'a pas de temporalité, ça dure quand même depuis très longtemps. On peut quand même dire une chose, c'est que ça bosse mal depuis l'été dernier, au moins à Rennes. Ça bosse mal. Ça bosse mal dans le recrutement, ça bosse mal dans les liens entre directeurs sportifs et entraîneurs, ça bosse mal sur le terrain, ça bosse mal partout.
Oui, c'est une saison à l'envers. Alors si on la remonte déjà, première chose qu'il faut dire, d'avoir continué avec Bruno Genesio, ça pose question aujourd'hui. Pourquoi Bruno Genesio était, on peut le dire, on le sait, était cramé mentalement depuis le mois de mars, avant la fin de la saison.
Okay.
La trêve d'un mois pouvait peut-être le relancer. En fait, on a dit que non. Après, il n'y a que des mauvais choix. Matic, un mauvais choix, c'est pas payant. Ludo Blas, c'est pas payant. C'est des problèmes de recrutement. Le mercato d'hiver n'a pas été bon. Il a fallu relancer un profil d'équipe par Julien Stéphan, qui n'était pas l'équipe qui l'espérait. Donc voilà, il y a plein de facteurs contraire sur la saison qui font qu'on en arrive là aujourd'hui.
Voilà, donc Rennes a mal bossé cette année, avec des ambitions qui étaient hautes, qui se sont délitées au fur et à mesure des... Et aujourd'hui, le mur qu'on a vu tous arriver, parce que depuis le début de l'été, on dit il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de défenseur d'expérience pour encadrer ces gamins, tout le monde le dit.
Ça donne clairement raison
les journalistes, les supporters, disent, ouais. Les observateurs extérieurs, il n'y a qu'une bande de 5 personnes qui ne l'a pas vu. Les deux entraîneurs, le président, le directeur sportif et l'actionnaire. C'est ça, si on résume.
Non, mais les paris n'ont pas été bons. Amari Traoré qui part, c'était un mauvais choix parce que voilà, ton vestiaire était aussi tenu par un capitaine qui était assez exemplaire de ce côté-là. Et on a vu que ça, voilà, ça joue aussi, la mentalité d'un vestiaire. Donc oui, tout ça, je suis d'accord. Des paris osés n'ont pas été payants, ça c'est clair et net.
Bah, aucun en défense finalement, parce que Guéladoué, ok, il y a des signes plutôt positifs sur ce joueur, mais il prend l'eau en défense hier, il laisse les centres, ça vient de ça.
On va y venir. Oui. N'allez pas trop vite en besogne, on a tellement de trucs à dire sur cette défense. Mais revenons au match. Oui, ce match, match de dingue. Ok, les places étaient très chères, elles étaient sans doute trop chères, beaucoup trop chères.
Elles sont très chères pour Lens aussi. Hein.
Elles sont trop chères encore pour, par rapport à ce que montre Rennes. Cela dit, si on rapporte le prix de la place au nombre de buts qu'on a vus,
oui,
ça ne fait pas trop cher le but.
Le ratio.
Mais c'est beaucoup trop cher. Alors, on a entendu dire beaucoup, c'est le match symbole de la saison rennaise. Vous êtes d'accord, Mel, Mélanie?
Oui, dans le sens où, offensivement, on a vu des bonnes choses. Après, je ne crois pas que Rennes avait déjà marqué 4 buts non plus en, ouais, en championnat.
Si, contre Metz, le premier.
Ah oui,
justement,
le premier match.
On va les revoir. Vous verrez tout à l'heure. Le but de Metz.
Comment a sorti l'hexagone.
Je trouve que défensivement, on a vu des erreurs qu'on a vues tout au long de la saison. Donc je ne sais pas si c'est le match qui résume la saison de Rennes, mais en tout cas, certaines lacunes, ça c'est certain.
Des hauts, des bas, hein, une gestion des émotions inexistante.
Oui, c'est ça le plus inquiétant et le plus catastrophique peut-être. C'est qu'on va parler de la défense un petit peu plus longuement après, mais c'est tout un collectif qui s'effondre sur plein de matchs cette saison. C'est pas la première fois que ça arrive, donc c'est la première fois en... de manière si éclatante, mais ça arrivait plusieurs fois que ce collectif, à chaque fois, ce fameux but que vous prenez après avoir mis un but, c'est pas, enfin en Ligue 1, ça peut arriver une fois, deux fois, mais quand vous, ça vous arrive un match sur deux toute la saison, c'est
justement,
pas possible.
Ça m'amène à vous poser la question. Soyez très honnêtes, hein, tous les quatre. Qui est-ce qui a 2-0 y a cru?
Ouais.
Ah oui.
2-0 à la 8e, vous y croyez pas, vous?
Non.
Bah, d'accord, bah, si. Quand même, il y a un moment où vous êtes censé. C'est une équipe de Ligue 1, c'est une équipe qui est censée être capable de garder un score, normalement.
Mais vous ne l'avez pas fait contre le Havre à domicile, vous ne l'avez pas fait à Lille. Les autres saisons, à 2-0 l'année dernière, on y croyait bien sûr. Mais cette année.
Le Havre,
c'était. Ah, vous y avez cru à 2-0.
Le Havre, c'était il y a longtemps.
Vous y avez cru 2 minutes.
On n'a même pas eu le temps de se poser la question, à vrai dire. Et à 2-1, finalement, on se rappelle aussi que cette équipe de Brest est capable de revenir à un caractère fou et marque beaucoup de buts. Il avait fait à Lyon, même si le scénario avait été différent, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se poser la question finalement. Si on regarde les matchs, on se pose pas trop de questions, on savoure.
Alors les questions qui se posent et que tout le monde s'est posé, on reparlera de la défense tout à l'heure, mais est-ce que c'était la bonne composition de départ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre Christopher Wu? Mettre Seydou?
Mettre
Truffert? Peut-être, je sais pas.
C'est toujours plus facile de dire ça après.
Je considère que les 4 centraux sont pas au niveau. Quoi qu'il arrive, il n'y en a pas un qui est... C'est bien la preuve de cette saison. On en est encore ici, à 3 journées de la fin, à se dire oh, quel centraux on aurait dû mettre. C'est pas normal qu'une charnière soit pas installée. Ça veut dire que les 4 sont pas bons.
Voilà. Donc, ça veut dire que sur les derniers mercato, on n'a pas fait le job.
Mais c'est pas Christopher Wu qui aurait changé la donne, je pense.
Je trouve ce qui est problématique, c'est qu'on est quand même en fin de saison, on connaît toutes les qualités du stade brestois, notamment offensivement, sur leur capacité à faire des centres. On sait que Mounier est l'un des meilleurs de la tête, je pense qu'il est dans le top 3 européen. Del Castillo, il a des stats de malade, hein, sur ses centres, sur ses passes en Ligue 1, on le sait. Et pour autant, Del Castillo a tout le temps de faire un centre qui est d'ailleurs magnifique. Et Mounier a tout le temps de placer sa tête sans aucune difficulté. C'est ça qui rend dingue aussi.
C'est peut-être même c'est peut-être le pire sur cette rencontre-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que vous avez un avion, Steve Mounier, qui peut arriver et couper quasiment tous les ballons. Bah vous empêchez la balle de partir, de base. C'est-à-dire que le plus problématique, c'est que les centreurs ont eu un boulevard à chaque fois pour prendre leur temps, bien comme il faut, pour centrer.
Et il se dit que Mounier avait une confiance de dingue quand il a vu qui il avait en face de lui et la façon dont ça défendait.
À la mi-temps, il a laissé le message dans son propre vestiaire. Allez-y, allongez, je me sens largement supérieur. Je suis en train de les manger, les croquer, les deux derrière. Et donc, ils ont allongé beaucoup plus, notamment en deuxième période, parce que voilà, il avait pris l'ascendant psychologique, physique, tout ce que vous voulez sur les défenseurs rennais.
Mais on nous dit ça a été travaillé, on a travaillé ça dans toute la semaine. Comment c'est possible alors?
Mais les autres aussi travaillent et voient que Comari est nul et que mais non, mais ils font de la vidéo aussi. Ils voient qu'il est fragile, d'une fragilité sans nom. Et aussi, eux aussi travaillent. Évidemment, Rennes a travaillé et c'est ce qui a le plus agacé Julien Stéphan, c'est que ils avaient travaillé ça visiblement, mais peut-être pas assez bien. Non, je sais pas.
C'est pas possible.
Effectivement, c'est la conséquence
que ça soit une fois, deux fois, au pire trois fois, mais cinq fois.
Après, les consignes ont peut-être pas été respectées parce que je vois pas ce qu'ils ont travaillé sur le cadrage du porteur de balle, par exemple. On peut se poser la question là-dessus.
Ah oui.
Plus largement, c'est inquiétant sur à quel point les consignes du coach passent auprès de ce groupe. Ouais. Tout bonnement, parce que quand c'est l'essentiel, c'est le point principal du travail de toute la semaine et que vous le prenez cinq fois le but. C'est que les joueurs ont beau être nuls si vous voulez, mais le message n'est pas passé.
Alors le cinquième, c'est un coup franc, donc c'est difficile de cadrer le. Mais par contre, tout le monde est passé.
Ballon, il attend de rebondir quand même.
C'est pas la Mounier qui est deux têtes au-dessus de tout le monde. Le ballon, il passe devant à mi-hauteur. Quoi. C'est incroyable.
On va écouter maintenant Benjamin Bourigeaud. Lui, il dit les choses, mais il suffit pas de les dire.
J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie d'être malhonnête. Mais je pense qu'on est con, tout simplement. Même si, j'emploie peut-être un terme malhonnête, mais voilà, on est des imbéciles, tout simplement. Tu fais un début d'entame de deuxième mi-temps qui est clairement catastrophique. Tu arrives à revenir à 4-4, tu fais preuve de caractère, puis tu sabotes le travail à la fin, donc... Voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire. On est toujours là à parler. À un moment donné, il faut agir. Et aujourd'hui, on n'a pas agi, tout simplement. Et c'est clairement ce qui fait chier. C'est qu'on est toujours en train de parler, en train de dire les choses. On l'a préparé toute la semaine. Les problèmes qu'on a rencontrés aujourd'hui ont été vus dans la semaine. On les a travaillés. Mais à un moment donné, si le week-end, tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu veux espérer de plus?
C'est ce qui nous énerve tous. C'est travaillé, c'est connu, c'est archi connu et c'est la faillite. Pourtant, l'attaque a été performante, on l'a dit tous, hein, 4 buts quand même, et des occasions que je voudrais vous remontrer quand même quelques-unes. En première mi-temps, regardez l'accélération là, de Bourigeaud, 35e minute. Voilà.
14 occasions, 21 tirs, 7 cadrés. Brest, 8 occasions, 10 tirs, 5 cadrés.
5 buts.
L'efficacité, elle est
regardez, et là, voilà. Bizot qui s'interpose devant Terrier, bien décalé pour une fois par Bélocian.
Il y a un truc qui est...
Doué.
Il y a un truc qui est révélateur, c'est sur les tirs contrés. Regardez la solidarité de la défense brestoise qui s'arrache, qui se couche, qui contre. Ils ont contré je ne sais pas combien de ballons. Quand du côté rennais, voilà, il y a toujours l'espace qu'il faut pour marquer un but.
Voilà.
C'est une équipe qui n'aime pas... C'est vraiment que la situation va mal. Je vais citer du Clément Gavard. C'est une équipe qui n'aime pas défendre. Ça se voit, quoi.
Oui,
c'est une équipe qui n'est pas bonne au duel. Oui. C'est plein de joueurs qui sont très performants quand ils arrivent dans la surface, dans les petits espaces, des Guiri, des Terrier, des Kalimuendo. Mais voilà, c'est une équipe, globalement, en bloc sur les 11 qui n'aime pas défendre, qui n'aime pas ça.
Alors, j'ai trouvé, justement, en première mi-temps, que dans les duels, il y avait des joueurs dans le pressing un peu Kalimuendo, il y a eu des fautes, ça. Terrier, je les ai trouvés assez... et puis c'est en début de deuxième, il n'y a plus rien. Quoi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ils sont tombés dans ce faux rythme à 2-1, et puis alors que les Brestois, ils sont revenus à fond, et ils ont...
Est-ce que, autant à 2-0, vous y croyiez tous, et pas moi, autant est-ce qu'à 4-4, vous avez cru que Rennes pouvait aller prendre le 5-4?
Oui.
Voilà, ils pouvaient tous passer.
Moi aussi j'y ai cru.
Oui, mais parce que tout pouvait se passer.
Ouais, c'était complètement fou.
Oui, mais
je sais qu'à l'égalisation, je me dis, on va peut-être fermer les vannes, hein, ou enfin, en tout cas ne pas aller chercher. Je sais bien, c'est pas dans l'esprit de cette équipe-là de Rennes qui dont l'engouement voulait aller chercher la victoire, mais j'ai dit, attention à la bêtise, elle est arrivée.
Ils arrivent déjà pas à conserver un score à 2-0 à la 8e, on va pas leur demander de garder un 4-4 à la 82e.
Enfin, avec des changements qui sont un peu étonnants quand même, qui n'ont pas apporté grand-chose. On va reparler de la défense et de tous les joueurs de la défense. Je le dis pour les téléspectateurs parce que là, je voudrais dire un mot de l'arbitre. Genre, ah bah non, pourquoi ? C'est quand même pas l'arbitre qui a fait perdre Rennes. C'est vrai. On dit bien que, on le dit quand même depuis maintenant 24 minutes, que il y a quand même peut-être deux pénaux sur Terrier. Celui-là. Là. Alors, peut-être pas, hein, vous allez voir sous un autre angle, regardez. Alors, le joueur a dégagé avant que Terrier n'arrive. Mais à Lyon, si c'est la casette, il y a péno. Hein. Vous le savez tous. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Bon, donc là, pas péno. Et là, est-ce qu'il y a péno ?
Non, là, pas.
Non, dit M. Bastien. Il n'y a rien.
Je cite plus facilement le premier que celui-là.
Ouais, ok, ouais, d'accord. Bon, il n'y a peut-être pas péno. On passe. La dernière action, l'action du dernier but, je vous la remontre parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont signalé. Regardez, il y a Guéry là qui fait un contrôle et Lesmelou arbitre lui-même et dit à l'arbitre, gamin, monsieur l'arbitre, et l'arbitre qui n'a rien vu dit, mais oui, monsieur Lesmelou, regardez, il n'y a pas main du tout.
Non.
Donc Lesmelou, qui est un peu le parrain aussi, lève la main, l'arbitre siffle un coup. Regardez, on continue, là, la faute, idiote. De le fait, c'est la même action, hein.
Faute professionnelle.
Qui amène, bah, voilà, donc un petit coup de coude dans la figure. Parce que c'est sûr que de mettre le fait au marquage de Mounier, c'est original. Et derrière, le pénalty. Bon, c'est une succession de petits trucs. C'est évidemment pas M. Bastien qui a fait perdre le Stade Rennais. Mais il y a des petits faits qui peuvent paraître énervants. Et puisqu'on parle de trucs idiots, le carton idiot, on peut le regarder, le carton idiot de Martin Terrier.
Suspendu pour Lens.
Voilà. Donc il y a une faute grossière d'Omari.
Qui vaut jaune. Hein.
Qui vaut un jaune. Mais c'est pas Omari qu'on met le jaune.
Sort,
voilà.
Il s'en sort très bien.
C'est à Terrier qui dégage et Magnetti donc qui le dénonce.
Non, il n'a pas besoin, je pense. Hein. C'est plus.
Mais l'arbitre, je suis pas sûr que l'arbitre l'ait vu.
Ouais, moi, après, je pense qu'il dit quelque chose.
Tout ça, maintenant est sanctionné d'un jaune.
C'est normal. Ouais, c'est non, mais c'est normal. Mais c'est débile.
Dembélé en a pris un comme ça.
Enfin, non, mais tout... c'est idiot. Bah, c'est idiot. Il ne jouera pas contre Lens. Ouais. C'est pas comme si on avait besoin de lui contre Lens. Il sera pas là. Bon.
Ça laisse une chance à Yildirim Rim de marquer un but dans sa saison.
La défense. On en vient maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit?
Si, un truc positif quand même. Je trouve que la réaction de Théâtre est bonne. On a quand même senti de la hargne dans sa frappe. Il marque un beau but, donc on peut quand même le féliciter de ça.
Il a de l'orgueil, ce joueur.
C'était le moins pire.
Et les gens qui pourraient nous dire, c'est pas forcément la défense. Mandanda, lui, dit, c'est la défense. Écoutez Mandanda.
Une défense en bloc.
Il y a le milieu aussi.
En étant aussi irrégulier, aussi naïf, un gardien qui ne fait pas d'arrêt, c'est compliqué de gagner un match. Donc aujourd'hui, sur l'aspect def, on n'a pas été bon et c'est ce qui nous coûte le match aujourd'hui. Je suis le premier à encaisser les buts, aujourd'hui j'en prends 5. 5 tirs cadrés. Forcément on est frustré et forcément on est responsable. Maintenant il y a plein d'autres choses aussi à corriger avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là, c'est que on n'est pas assez solide, on est trop naïf, on n'est pas assez, je sais même pas, concentré, mais c'est dommage d'être obligé. Aujourd'hui, on met 4 buts, on entame le match comme il faut et on trouve le moyen quand même de perdre le match. C'est qu'il y a un problème quelque part.
Il y a un problème.
Mais il n'y a pas que la défense qui est en cause. Il parle de tout l'aspect défensif, ouais. Du travail défensif. Mais regardez, sur le but de Magnetti, je suis désolé, c'est le marquage... Satriano, pardon.
Ah oui.
Je ne les connais pas encore bien.
Vous allez apprendre à les connaître.
Mais je vais faire des fiches cet été. Non, mais le but de Satriano. Et je suis désolé, il y a aussi les milieux. On a des milieux. En plus, il y avait deux milieux défensifs, Santa Maria et Matuziwa. Et pourquoi il ne le garde pas au marquage? Il se balade comme il veut, ce joueur. Désolé, il n'y a pas que les défenseurs.
C'est un but que vous prenez plusieurs fois, quoi. Le double rideau qui arrive derrière, le premier attaquant qui fait un appel au premier, derrière, vous prenez, c'est le but que vous prenez à Monaco, il me semble. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Mais il n'en peut plus, Mandanda. Ça se voit.
Mais
ça
je
se
veux
voit
bien qu'on dise, ah oui, mais on ne peut pas dire, c'est que l'année. Tout le monde attaque, tout le monde défend, il faut mettre tout le monde. C'est quand même les défenseurs.
Oui, mais le foot, c'est quand même ça. C'est-à-dire que dans le bloc défensif, vous prenez, quand vous jouez en 4-4-2, vous prenez au moins les deux milieux qui sont chargés de redescendre pour défendre. Les deux de la charnière sont à la rue, mais je pense que tout le monde est au courant. Et latéraux aussi. Mais voilà, il ne faut pas non plus exempter les deux milieux défensifs.
Et puis, il y a un symbole. Malheureusement, c'est Omari. Omari, là, j'espère qu'il lit pas les réseaux sociaux, j'espère qu'il s'est caché, enfin qu'il est quelque part au calme avec sa famille, parce que là...
ce qui agace le plus, c'est...
Regardez comment...
Il est complètement passé à côté de son match, en fait. C'est vraiment... celui-là...
Regardez ça, alors ça, ouais. Mais c'est pas possible de mettre un but contre son camp, comme ça.
Bah, en fait, c'est... Oui, c'est, je le trouve pire que celui de Lorient.
Mais il est pareil que celui de Lorient.
Non, il est pire. Il est pire. Un pied gauche et vous la sortez. Corner, c'est fini.
Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de pied gauche.
Oui, mais justement...
Alors, il fait un... alors là, hop, il se fait un petit peu, évidemment... balancé par Mounier, mais il va revenir.
Ouais, il a cette belle action.
Voilà, là. Il revient parce que là, oui, ça fait déjà 3. Enfin, il mène au score déjà, ouais. Brest. Et puis regardez là, regardez, ouais. Si Mounier reprend instantanément
le ballon.
Il n'était pas sur le terrain, mais l'espace qu'il a, voilà.
Il n'était pas sur le terrain hier, je ne sais pas, il a ses problèmes de concentration qu'il avait, qu'il semblait parfois résoudre et tout, c'est compliqué.
Pourquoi ?
C'est vrai que Omari, alors moi j'ai ses stats, hein, il arrive bientôt à 100 matchs professionnels, donc c'est plus un perdreau
de l'année,
c'est plus un gamin, il a 24 ans, il aurait dû être un des patrons de la défense cette saison, qui, on le rappelle hier, j'enlève Mandanda, moins de 22 ans de moyenne. Évidemment, Guéladoué et Bélossian, ce sont des jeunes joueurs, mais surtout, il a un truc qui agace, je pense, beaucoup les supporters, c'est son body language, qui, en fait, on a l'impression qu'il est toujours... il plane, ça lui passe par-dessus, il fait une erreur... c'est lisse, alors qu'on a à côté Théâtre qui, pas pour moi, t'es pas des années-lumière devant, mais qui, voilà, qui a la rage et qui va, quand il fait une erreur sur sa tête dans l'axe, va derrière par rage et marquer le but qui relance l'équipe.
Donc, pourquoi est-il toujours titulaire ? Question.
Parce qu'il n'y a pas mieux.
Parce qu'il n'y a pas mieux.
Mais je suis tout à fait d'accord.
Christopher Roux, pour moi, c'est pas
avant
non plus.
Ce match, sachez qu'avant ce match, Ouarmed Omari est le défenseur qui a le meilleur stat dans les duels gagnés. 76% quand Théâtre a 66% et Roux 63%. De duels gagnés sur cette saison. C'est le plus fiable, et oui, dans les duels cette saison. Et c'est dur à entendre, peut-être, mais c'est comme ça.
C'est dur à entendre. On a l'impression que la moyenne, les bêtises qu'il fait, c'est compensé par ça.
C'est vrai que depuis Alain Rocha, le Suisse, qui en 2005-2006 avait mis 2 buts contre son camp en une seule saison, ça n'était jamais arrivé. Voilà.
Encore un record qui tombe.
Donc il est toujours titulaire parce que c'est le meilleur. Bon, ok, je veux bien l'entendre.
Non, c'est pas ça.
C'est le moins pire.
On a l'impression que ce staff alterne, n'arrive pas à trouver de dynamique de charnière avec ni l'un ni l'autre.
Il est défenseur central. Pourquoi on ne l'essaye jamais en défense centrale, par exemple? On a recruté un joueur qui ne joue pas, et qui est normalement défenseur central, qu'on fait jouer de temps en temps latéral droit. Alors évidemment, il a pas la taille pour Mounier, mais pourquoi il se ferait moins bouger qu'Omari? En tout cas, je suis sûr et certain. Et pourquoi on n'essaye pas ce joueur? Pourquoi on l'a recruté au final?
Voilà. Ça se défend.
Ça veut dire qu'il y a des joueurs poste et on les fait pas jouer.
On n'a jamais remplacé Aguerre des Traoré. On ne veut pas de défenseurs d'expérience. On nous a dit aux uns et aux autres, vous imaginez pas le signal qu'on donnerait aux jeunes si on leur mettait des expérimentés.
Signon est parti finalement.
Signon est parti et c'est donc maintenant le remplaçant du remplaçant qui est titulaire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour Omari? Faut le protéger,
L'exfiltrer, comme vous dites.
Faut l'exfiltrer.
À un moment, je parlais de National, le Ligue 2, ça serait bien. Enfin, qu'il soit.
Non, mais là, fin de saison, Laurent.
Je sais pas.
Il faut le sortir du 11 de départ. On ne peut plus.
Il fait un match catastrophique à Lorient. Il se relance derrière. Il est impactant dans les 3 bons mois du Stade Rennais aussi. Donc, peut-être que vous le sortez du 11. Oui, peut-être pour son bien. Et encore, je suis même pas sûr.
Parce que quand il joue avec Théâtre à ses côtés, c'est cata à chaque fois.
Oui, mais c'est ce que
donc
dit
là,
Christophe.
Au moins, on est sûr que cette paire-là, elle fonctionne pas.
Ce que dit Christophe, ça montre qu'il a une capacité quand même de rebond. On peut toujours lui accorder ça. Maintenant, moi, je trouve que l'erreur est humaine et je trouve aussi qu'il en a trop commise cette saison pour être dans la charnière centrale.
Il est trop humain, finalement.
C'est exactement ça, voilà. Non, mais c'est vrai, je sais pas qui mettre à la place. Je sais pas si Christopher Roux est vraiment meilleur. Julien Stéphan les voit tous les deux à l'entraînement. Donc, il fait pour lui le meilleur choix possible. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'Omari n'a pas sa place au Stade Rennais, dans un Stade Rennais qui vise l'Europe, en tout cas.
Ouais. Je pense que ce ne sera pas si évident que ça de le voir partir la saison prochaine, parce que ça nous emmène...
Les 3 derniers matchs.
Ouais, sur les 3 derniers matchs.
Oui.
Vous le sortez.
On s'enfonce encore plus en le sortant, non?
À un moment, Rennes n'a pas besoin de s'enfoncer trop, quoi.
J'en sais rien, comme il y a de la calinothérapie dans cette équipe et dans ce club, je ne sais pas.
Alors, Omari, Guéladoué, Alors, il a eu 5 minutes, Guéladoué, en deuxième période. Les 5 minutes, 3 actions. Rennes est menée au score. Et là, voilà. Alors, bon, au lieu d'être instinctif, il part dans des trucs. Voilà, qu'apporte rien. Ça, c'est la première. Non, mais là, c'est la deuxième. Là, allez. Tu peux centrer. Bon, bah, non.
Voilà. Non, mais c'est.
C'est à la troisième. Oh, tout ça en 5 minutes. Et puis là,
c'est
attendez,
à l'image de sa saison un petit peu.
Voilà, qu'est-ce que je fais? J'essaie de m'en sortir. Non, voilà. Bon.
C'est à l'image de sa saison, c'est qu'il se retrouve titulaire alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Et il est trop dans la... Il joue un peu de la même façon que son frère, avec moins de talent, j'imagine, dans l'aspect offensif. Mais ils sont vachement dans la provocation à chaque fois, dans la provocation du dribble, dans l'élimination un petit peu du vis-à-vis. Et sauf que lui, il est latéral, donc quand lui il se loupe, bah c'est beaucoup plus grave.
On a vu son frère.
C'est plutôt mieux en piston finalement dans son profil.
Peut-être oui. Et on a vu son frère pas être très content quelquefois par rapport à ce qu'il faisait.
Oui. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Guéladoué, je trouve que c'est pas encore arrivé au niveau attendu d'un club comme le Stade Rennais. Voilà.
Ça fait beaucoup de joueurs pour lesquels tu as cette conclusion-là quand même.
Mais c'était pas prévu, programmé qu'il soit le latéral droit du Stade Rennais cette saison.
Mais finalement, faut juste se rappeler ça.
Donc forcément, il montre ses limites aussi cette saison. Non. C'était même pas prévu il y a 2 ans qu'il soit joueur professionnel. Alors voilà, il progresse très vite. Ok, mais il n'est pas encore prêt pour être titulaire au Stade Rennais.
Il a 23 ans, il est de 2001.
Le directeur sportif est venu nous dire ici qu'on voulait jouer la Ligue des Champions. Enfin, on ne peut pas dire qu'on va jouer la Ligue des Champions avec un gars qui, il y a 2 ans, ne devait même pas être professionnel et qu'à 23 ans. Je ne dis pas qu'il est... Il faut mettre des joueurs en adéquation avec ses ambitions.
Ouais, c'est ça le souci de cette saison. C'est pas finalement c'est ça parce que comme dit Christophe, quand il conclut, ce joueur n'est pas au niveau du stade auquel ambitionne le Stade Rennais. Et il y en a beaucoup trop dans l'effectif finalement.
On rappelle que c'est Assignon le titulaire prévu en début de saison, que derrière voilà, on prend le pari Guéladoué qui finalement joue beaucoup de matchs, et derrière on recrute Seydou qui fait pas l'affaire, je suis désolé, arrière droit, il a des limites aussi. Donc voilà, c'est encore comme un peu les défenseurs, on prend un peu les moins pires les moins pires dans le latéral droit, c'est Guéladoué.
Et il y a beaucoup de gens qui sont responsables de cet état de fait aujourd'hui et qui devront pas se cacher quand va arriver le bilan, que ce soit un bilan et que Rennes joue un strapontin européen ou pas, il va falloir un bilan et que des gens peut-être fassent, vis-à-vis de ce qui avait été annoncé en début de saison, un mea culpa au bas mot, ou en tout cas reconnaissent qu'il y a peut-être eu des erreurs, ce qui pour le cas et pour le moment n'a jamais été le cas.
Ils le savent déjà.
Alors Théâtre, on en a déjà parlé, Bélocian. Quelques images de Bélocian. Ça, c'est en début de match. Là, il peut y avoir, et là, Monsieur Bastien peut siffler penalty pour Brest.
S'il le fait, c'est pas scandaleux.
C'est pas scandaleux. Là, c'est Bélocian. Voilà. Au début, regardez bien, au début de cette action, voilà, là, il y a peut-être pénalty parce qu'il avait perdu le ballon. Et en deuxième mi-temps, il y a un truc hallucinant. Très bonne transversale de Bourigeaud. Il monte, Bélocian, et il va se faire prendre le ballon par un garçon qui a jamais gagné un duel, Del Castillo. Regardez. Hop, c'est là.
Non, mais il a été hyper brouillon techniquement, Jeannel Bélocian, sur ce match-là.
J'ai l'air méchant comme ça.
Ce match-là, il a été hyper brouillon. Après, c'est des choix, c'est du coaching. Moi, je pense que c'est pas un latéral gauche. Il n'a pas grand-chose à faire au poste de latéral gauche et que finalement, son poste, c'est dans l'axe. Et donc, effectivement, peut-être encore un joueur qui n'est pas dans les meilleures dispositions.
Ça fait quand même beaucoup de choses pour Julien Stéphane quand même, hein.
Ça peut, ouais.
S'il met pas les gens à leur bonne place.
Il y a Truffert qui revient de blessure, il est peut-être à court physiquement, il l'enchaîne, il fait plutôt un match correct à Nantes. Moi, ça me choque pas de le voir titulaire sur ce côté gauche. Moi, je trouve qu'il a un énorme potentiel, mais c'est pas un latéral aujourd'hui qui techniquement peut postuler comme le Stade Rennais qui demande des efforts, en techniquement beaucoup plus fin. Il n'est pas assez
fort. Il est pas mal en défense, ils s'entendent bien et j'ai l'impression que Omari se sent mieux à côté de Bélocian. Pourquoi pas ça? Bélocian, il a du caractère, mais parfois c'est du caractère qui dépasse. Il est un peu branleur. Il va falloir qu'il s'agisse ça. Par exemple, à un moment, il y a une faute, je sais plus qui, je crois que c'est Loco qui fait une faute sur lui. Il va s'excuser, il lui tend la main et l'autre il refuse la main. Moi, je trouve que entre le caractère et le côté branleur, il faut faire très attention.
D'accord.
Et quand on est jeune comme ça, voilà, il faudra sauter juste à dire.
Juste comme ça, depuis que Julien Stéphan donc a signé sa prolongation de contrat ou a signé un vrai contrat, plus rien ne va.
une victoire
en 6 matchs. Je repose la question. Elle est peut-être un peu provocatrice, mais Qu'est-ce qui oblige le Stade Rennais à garder Julien Stéphan si ça ne va pas?
L'argent.
Quel argent?
Est-ce que ça va coûter de rompre son contrat et de le licencier?
La sympathie d'action. Et puis, Julien Stéphan, il
est quand même arrivé. Non, attendez, je reviens sur l'argent. Quel argent?
L'argent, il a signé une prolongation, oui. Stéphane. Il y a des années de contrat, donc si vous mettez fin au contrat, vous lui payez une indemnité.
Oui, mais on achète des joueurs 20, 25 millions qui apportent rien.
Après, moi, je
mets. Il y a de l'argent à Rennes. Je pense que c'est pas un frein.
Ah oui, mais si vous êtes le comptable du Stade Rennais, que ça passe, c'est comme vous voulez. Moi, vous me demandez ce qui va poser problème. C'est ça qui va poser problème.
Après, mais ça pose pas de problème pour acheter des joueurs qui ne jouent pas.
C'est 11 millions qui ne jouent pas. À l'heure actuelle,
Blas, combien il a coûté, Blas?
25.
Oui, mais c'est 15, pas, c'est 18, pas tellement.
Il n'est même pas rentré hier.
Non, mais c'est pas une question d'argent.
Bah voilà.
Non, mais on marche sur la tête de se dire.
C'est un peu de la provoque, je fais, je reconnais.
Oui, là, c'est de la provoque. Vous prolongez un entraîneur qui sort d'une phase où il remonte le club, 3 mois, super. Juste effectivement, au moment où il prolonge, ça se casse la gueule. Mais on prépare l'avenir, on prépare la saison prochaine. Ils ont décidé de faire confiance à Julien Stéphan. C'est comme ça. Okay. La saison, elle est ratée. Et on repartira avec autre chose avec Julien Stéphan. Enfin, c'est une évidence. Vous pouvez pas tout chambouler parce que vous avez perdu 2 matchs. Vous allez rater le Strapontin de l'Europe et vous dire, ah bah tiens, pourquoi on n'irait pas chercher Franck Hayes par exemple? Non, mais à un moment, il faut être un peu sérieux. Ils n'ont pas fait ça comme ça en jetant la pièce.
J'entends,
Julien Stéphan, on verra.
J'entends parce que.
Non, mais en plus, il est arrivé comme dit Christophe pour le sauver le club.
Il a sauvé le club.
Bah voilà, il a remonté. Alors là, certes, 9e, c'est un peu le ventre mou.
Mais si aujourd'hui, vous dites qu'il ne fait pas jouer les joueurs à sa bonne place.
Oui, mais après, c'est pas parce qu'un coach fait des erreurs sur un match, sur une feuille de match ou quoi que ce soit que. Faut le remettre en question globalement.
Enfin, j'oublie pas qu'il y a 5 ans, il nous a ramené un trophée.
Oui, déjà, il a ramené un trophée.
Jamais oublier ça.
Reste quand même un coach, un tacticien hors pair. Que s'il fait son équipe comme il a envie avec un recrutement cet été, c'est là où il faudra le juger. Il faudra le juger avec un effectif qu'il a fait main dans la main avec le directeur sportif.
C'est quand même jugeable maintenant aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Quand on estime que les choix que fait Julien Stéphan et les prestations de son équipe, il faut juger quand même de ces choix qu'il fait maintenant. C'est-à-dire qu'il n'a pas une équipe zéro non plus. C'est-à-dire, effectivement, c'est une équipe qui n'a pas choisi et qui n'a pas construit. Donc quand vous portez un jugement sur Julien Stéphan, il faut se dire, bon, c'est peut-être pas tous les joueurs qu'il voulait, mais il n'y a pas que des peintres non plus dans l'équipe. Donc à un moment, c'est aussi ses choix. Il ne faut pas non plus dédouaner complètement l'entraîneur de la prestation de l'équipe.
Non,
faut composer avec. Mais...
On peut le critiquer, mais sans avoir envie de le virer.
La question a été un peu... provocatrice pour ça, mais je
vous êtes chafouin.
C'est pas vu. Allez, on regarde les notes des joueurs. Allez, les notes. Voilà, 4,3 la moyenne. Omari à 2, Bélossian 3,2. Vous voyez, c'est pas terrible. 2,6 pour Galadoué. La meilleure note pour Kalimundo, auteur d'un doublé, mais qui est toujours pas à 10 buts en championnat. Hein.
6, 11.
Il est à 9.
À 9, ah bon. Il y a 14 en tout, je crois.
Oui, mais il est à 9 en championnat. Voilà les notes. Bon, il n'y a pas besoin de tellement de réactions. On aurait pu mettre une note au public qui est très gentil. Moi, je trouve que le public rennais est très gentil.
C'est un contraste, je pense, avec le public visiteur qui vous a fait dire ça. Parce qu'il y avait quand même un parquage brestois plein et qui faisait bien bruyant.
Ouais, et puis ils ont exulté, vous imaginez. Vous imaginez ce qu'ils ont vécu. C'est un peu comme Rennes à Nantes en 2006, quoi.
Oui. Mais c'est une question de perception. Pour le supporter rennais, battre Brest, c'est normal. Donc le public rennais s'attendait à ce que son équipe batte Brest. Alors de l'autre côté, vous avez des supporters qui sont venus en coller 5 aux Rennais.
Oui.
Ici, ce qui n'est pas arrivé depuis jamais. Ouais. Et la victoire qui n'est pas arrivée depuis 37 ans.
Alors on a 2 minutes.
Ils ont surtout exulté pour l'Europe, plus que pour avoir battu Rennes.
C'est le scénario qui est incroyable.
Évidemment, le scénario est incroyable. De toute façon, tout le monde exulte dans un scénario comme ça.
Vous allez prendre l'Europe en mettant 5 au gros rival de la région.
Et une heure et demie après le match, finalement. Et ils étaient là, c'était Ligue Europa Conférence, et après Ligue Europa dans la soirée, chacun buvait sa petite bière tranquille.
Non, mais c'est vrai que là, c'est une bonne opération pour eux. On n'a pas le temps de parler de Metz, mais qu'est-ce que vous voulez dire sur Metz? Alors vous les trouvez bons, moi je les ai vus jouer à domicile. Ils sont nuls, sans rire. Ils ont une défense qui est comme Rennes.
Il est capable de planter, de faire la misère à Omari.
L'état psychologique du Stade Rennais ce matin, c'est une montagne d'aller jouer à Metz. Ça va être très compliqué, très compliqué.
Metz qui joue le maintien, qui est 16e, qui est à égalité avec Nantes, qui est à 3 points, je crois, du Havre. C'est le meilleur moment pour eux de recevoir Rennes. Je pense qu'ils n'ont pas oublié non plus le match aller avec les 5 buts qui sont pris.
Ah, on les regarde, tiens, on va les voir et on va continuer à en parler. Vous allez voir.
C'est plus dynamique.
Ce matin, il y a peut-être que Lorient qui a moins le moral que les joueurs du Stade Rennais ce matin.
Regardez comment ça avait... il était tombé, mais il s'était relevé. Kalimundo, il avait marqué. Ça avait fait 5-1. Regardez le but de Metz. C'est le même que le but hier de Mounier. Voilà. Ouais. Ça n'a pas changé, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes défenseurs, c'était la première journée. Et puis évidemment, ça avait un petit peu plus déroulé. Il y avait Salah. Vous vous souvenez de ce joueur, Salah?
Qui marquait des buts. Quelqu'un d'autre, non?
Il y avait Doku.
Voilà, je vous attendais.
Regardez, il y avait Doku. Regardez. C'était le bon temps. Allez.
Il faisait beau.
Je vais vous demander vos pronos maintenant, si vous voulez bien. Mélanie. Vous êtes au micro, dites-nous.
Eh bien, comme à chaque fois que je ne sais pas ce qui va se passer, je vais dire un partout.
Oui, vous avez raison. Un partout pour Thomas aussi. Je vais vous suivre, je dis un partout.
Super, une mission originale.
2-1 pour Metz.
Oh là, des choses ont changé sur cette terre.
Optimiste, définitivement.
Moi, je vais donner une victoire de Rennes.
Parce qu'ils sont... Ah, pourtant, c'est une équipe qui est bien, Metz. Hein,
j'ai dit qu'il y avait une dynamique. Ils étaient quand même derniers, Lanterne Rouge, pendant je ne sais pas combien de journées. Oui. Ils sont 16e, là.
Alors, vous dites quoi?
Grâce à Mikotas. Je dis 2-1 pour Rennes.
1-2, voilà.
1-2, oui.
On verra si les espoirs seront encore là, sachant qu'il y a d'autres matchs, mais qui ne vont pas jouer exactement à la même journée. En tout cas, pas le même jour que Rennes. On verra. On sera là lundi prochain pour essayer d'entretenir un tout petit peu l'espoir, même si là, on l'a bien quand même un petit peu plombé. À lundi prochain, portez-vous bien et quoi qu'on en dise, allez.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.